problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'Afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, c'est jusqu'à minuit, on va une nouvelle fois décrypter l'actualité du football, analyser ce qui fait débat, débattre de certaines analyses. Pour nous accompagner ce soir, trois consultants rouges comme les joues d'un enfant quand il a trop joué, notre Red Bull à nous, Damien Périnel.
Bonsoir tout le monde.
Le digne représentant de la Red Abbey à Cork, Jonathan McCarthy.
Merci beaucoup, on est Cork.
Cork. Ouais, j'ai essayé, bon. Mais ça va pas suffire. Et puis il part séparément son cœur entre bleu, blanc, rouge et l'étoile blanche sur fond rouge. C'est François Manardeau.
Merci Tim. Bonsoir à tous.
Et ce soir, dans l'After, le programme est riche en invités. On sera avec Olivier Dalloglio dans un instant. 15e de Ligue 1, il réalise un début de saison enthousiasmant avec Brest. On décryptera les premiers pas de Robert Moreno qui a dirigé sa première séance aujourd'hui à Monaco et qui a été présenté à la presse. Ses déclarations, les sensations de notre spécialiste à Monaco, Loïc Tanzi, qui était sur place et qui a scruté les premiers pas de Moreno. On parlera de la Première Ligue et d'un club aimé par beaucoup de Français, Arsenal. Les Gunners ont un nouveau coach. On sera avec Fabrice Sabriel, qui l'a côtoyé au Paris Saint-Germain et qui nous aidera à décrypter la personnalité de l'Espagnol. On fera un point sur le Mercato avec Alexandre Distel, qui connaît lui aussi la Première Ligue comme sa poche. Et on parlera ensuite de la grosse polémique qui enfle en PL suite à plusieurs décisions de VAR jugées litigieuses, tatillonnes. On aura l'avis tranché également de Jonathan McCarthy. Appelez-nous au 3216 pour partager votre avis avec nous sur ces sujets, pour parler avec nos invités et également pour participer au quiz de l'After qui clôturera cette soirée. Mais on rentre directement dans le vif du sujet avec Olivier Dalloglio, entraîneur de Brest, qui est avec nous. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous ce soir.
Oui, de plaisir pour moi aussi. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir. Salut Olivier.
Bonsoir coach.
Alors Brest, bonsoir. C'est l'une des équipes enthousiasmantes de ce début de saison. Vous jouez le maintien, vous étiez venu nous le dire cet été. Mais comme avec Dijon, vous semblez vouloir l'obtenir en passant par le jeu. C'est une philosophie dont vous ne dérogerez pas, Olivier ?
Oui, bah bien sûr. Je n'ai pas trop changé de philosophie. Après, j'ai des joueurs qui s'y prêtent. La saison dernière, ils auraient fait... Et un très bon championnat en Ligue 2 avec Jean-Marc Furlan, qui est aussi adepte du jeu. Donc, j'ai pris la suite quelque part en essayant, hein, parce qu'il faut quand même être toujours très très humble là-dessus, d'essayer de produire du jeu et prendre plaisir, et puis en donner au public brestois qui s'est régalé la saison dernière.
Olivier, pour produire du jeu, il faut les joueurs qui vont avec. En l'occurrence, vous avez retrouvé un groupe qui était formé, pas entièrement, vous avez apporté des ajustements. Globalement, vous étiez surpris du niveau technique de cette formation. On pense forcément à des joueurs comme Cour, qui sautent un petit peu aux yeux de la Ligue 1.
Il y a des joueurs que je connaissais bien, qui étaient en Ligue 2. J'avais suivi la fin de championnat de Brest, et puis j'avais trouvé qu'il y avait cette qualité, une qualité technique, et qu'on pouvait faire fructifier en fait avec certains joueurs. Après, bien sûr, sur la première partie du championnat, il fallait aussi pouvoir évoluer et être en confiance pour pouvoir passer le cap de la Ligue 1. Alors bon, on n'est qu'à mi-chemin, hein. Donc on est plutôt satisfait de ce qu'on a fait. Après, je pense qu'il y a encore une marge de progression à aller chercher.
Jonathan McCarthy.
Bonsoir Olivier. Bah écoutez, bonsoir. On vous avait eu avant de commencer la saison, vous nous aviez dit que vos ambitions c'était de faire du jeu, vous nous aviez pas menti. Effectivement, votre équipe, c'est une de celles quand on la regarde, alors peu importe que vous gagnez ou que vous perdiez, on sait toujours qu'il va se passer quelque chose dans vos matchs. Ça c'est déjà vraiment un bon point. Moi la question que j'ai, c'est que j'ai quand même l'impression que vous êtes plus serein et beaucoup plus sûr de vous à domicile par rapport à l'extérieur.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour améliorer ça en seconde partie de saison?
Ah oui, tout à fait. Ouais, on a on a deux visages en fait. On a le visage à Francis Leblé, où on est chez nous dans ce petit stade à l'anglaise bien rempli avec avec beaucoup de passion autour. Donc j'ai l'impression que ça aide. J'ai pas l'impression, je suis sûr que ça aide les joueurs et ils se sentent vraiment chez eux. Et puis après le visage à l'extérieur qui est beaucoup plus timoré, timide. Parfois petit garçon, on a vraiment un objectif là sur cette deuxième partie, c'est d'être plus solide quand même vraiment à l'extérieur, à l'image du match à Montpellier où on a été fragile, puis on revient quand même frustré parce qu'on prend 4 buts, c'est quand même difficile hein, quand on encaisse des buts, autant de buts. On a fait pareil à Monaco, on est allé là-bas sur la pointe des pieds.
Tactiquement, vous envisagez quelles sont les pistes que vous pensez aller explorer pour remédier à ça?
J'allais dire, tactiquement, il n'y aura pas de bouleversement. C'est plutôt dans l'état d'esprit, quoi. Voilà, dans l'état d'esprit. Au niveau tactiquement, je veux dire, il n'y a que au niveau du bloc équipe qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus compact à Leblé qu'à l'extérieur.
Et vous l'expliquez comment?
Je pense que dans l'engagement aussi, ça nous manque. Après, je cherche toujours tactiquement à améliorer. Il y a des garçons ce groupe a déjà évolué. Il y a des garçons qui n'ont pas joué sur le début de saison. Je pense à des garçons comme Duverne. C'est des garçons qui petit à petit sont amenés à être peut-être devenir des cadres petit à petit, et il y aura une évolution aussi de l'équipe petit à petit comme ça, mais il faut que le championnat va vite quand même aussi hein. On est déjà mi-parcours et il faut vite progresser.
Olivier Dalloglio est l'entraîneur du Stade Brestois. Merci beaucoup d'être avec nous. Question de François Manardo.
Oui, bonsoir coach. Que ce soit avec Brest, le Stade Brestois, ou bien la précédente équipe que vous avez entraînée, Dijon, on a toujours, oui, tous unanimement reconnu qu'on prenait un certain plaisir à voir évoluer vos formations. Et on constatait aussi que dans votre recherche de jeu, elle pouvait amener à des déséquilibres la défense en payait un petit peu les pots cassés. Je voulais savoir, est-ce que vous allez utiliser ce mercato pour faire des ajustements avec peut-être une ou deux recrues pour consolider un peu plus votre non pas peut-être votre défense mais le bloc dont vous parliez en phase défensive.
C'est tout à fait vrai, on se retrouve parfois naïvement en déséquilibre et on a l'impression qu'on a besoin aussi de joueurs un peu d'expérience. C'est pour ça qu'on avait pris des garçons comme Paul Lannes, Ludovic Ball aussi, qui doivent nous amener un peu cette expérience. Alors pour le mercato, pour répondre à votre question, on va être d'abord observateur. On n'a pas ciblé spécialement, j'allais dire, un joueur ou deux, mais peut-être un profil d'attaquant. Il nous manque plutôt d'attaquant de profondeur. Après, j'ai bon espoir de faire évoluer l'équipe sur ces déséquilibres-là, notamment sur les transitions, qu'on soit plus efficace, qu'on soit moins naïf, qu'on parte moins la fleur au fusil, voilà, parce que c'est ce qui nous a fait défaut à l'extérieur, un peu moins à Leblé, mais vraiment à l'extérieur, c'est ce souci-là. C'est-à-dire qu'il y a parfois un manque d'observation de mes joueurs, de ce qui se passe. Voilà, donc, là, j'aimerais vraiment qu'on arrive à grandir, mais on n'a pas, je pense pas qu'au niveau du mercato, on bouleverse grand-chose, parce qu'on a déjà un groupe qui est assez étoffé, et ça serait rajouté, voilà, sauf cas particulier, il y aura peut-être une recrue, mais pas plus.
Damien Perrinel a une question pour vous, Olivier Dalloglio, coach de Brest.
Bonsoir coach. Bonsoir. Je vais avoir deux questions en fait à vous poser, pas sur votre équipe, en fait sur Olivier Dalloglio, l'entraîneur que vous êtes et que vous avez été aussi. Je me souviens lorsqu'on se croisait sur les terrains en Ligue 2, lorsque vous étiez à Dijon. Voilà, j'aimerais savoir aujourd'hui... en quoi le Dalloglio d'aujourd'hui est meilleur que celui d'il y a une dizaine d'années? Dans quel domaine il a progressé? Et surtout, en fait, sur quels aspects il va plus insister aujourd'hui avec les nouveaux joueurs, cette nouvelle génération? Parce qu'on ne coache plus aujourd'hui comme on coachait il y a 10 ans.
Non, il y a une évolution constante et j'ai l'impression que l'évolution va de plus en plus vite. Il faut arriver à suivre l'évolution, notamment sur l'humain, sur des générations qui sont différentes pour X raisons, hein, parce qu'il y a de la technologie qui est différente, parce qu'il y a une éducation qui peut être différente. Donc, je me penche... bon, il y a longtemps quand même que j'y suis dessus, mais je suis très attentif à tout ce qui est comportement, attitude, et puis relationnel au niveau de l'humain. Il faut arriver à conjuguer à la fois d'être... proche des joueurs, mais en même temps de pouvoir les faire progresser, mais en même temps qu'ils se coulent dans un collectif. Et c'est pas toujours simple sur des joueurs qui, comme pratiquement tous les joueurs, hein, même à mon époque, on était comme ça, mais on est quand même tourné vers nous-mêmes. Donc c'est le plus dur, c'est de faire comprendre aux joueurs que le collectif, c'est la solution, quelque part. Et il faut se tenir, j'allais dire, au courant de ce qui se passe et des évolutions qu'il y a autour de nous pour pouvoir faire passer ce message au mieux.
À quoi vous pensez difficile. Précisément, coach, quand vous dites se tenir au courant de ce qui se passe autour de nous, en termes de management
Faut pas être décroché, quoi, quelque part. Voilà.
Regardez les ch'tis à Mykonos et les Marseillais à Miami, alors.
Bah ouais. Non, il y a de tout.
Faut pas être décroché.
Je vois, bon, j'ai une fille qui a l'âge de mes joueurs, donc je vois bien comment elle peut se comporter, qu'est-ce qu'elle regarde, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle écoute en musique. Ouais, il y a plein de choses pour qu'on soit au plus près, en fait, des joueurs, de cette évolution. Mais c'est pas évident du tout.
Non, c'est pas évident. Là, en plus, hein, moi, j'ai passé mon diplôme l'année dernière avec Bruno Grougy, qui est avec vous. Et là, j'enchaîne sur un deuxième. Et c'est vrai que notre génération, même la nôtre, hein, où on était quand même...
Attends, on va rappeler ton âge, Damien.
36 ans, voilà. Donc jeune retraité. Mais ceci dit, lorsqu'on était au centre de formation, ou même lorsqu'on était en tant que joueur professionnel, c'est vrai que les coachs portaient plus attention à tout ce qui était terrain en soi et moins tout ce qui était sur les à côté, parce qu'il y a des choses, c'était des basiques en soi et par exemple l'abnégation, le don de soi, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est obligé de forcer un peu de ces traits-là et de les mettre dans un cocon, de pas leur parler trop mal, parce que sinon ils peuvent mal le prendre, ainsi de suite. On les protège beaucoup, je trouve.
En fait, il faut trouver cet équilibre-là. En fait, c'est pas histoire de protéger, c'est de leur parler. De leur parler comme on doit leur parler. À un moment donné, il faut être aussi savoir aussi monter le ton, mais il faut trouver souvent les bons mots et le bon moment. Voilà, ça c'est j'allais dire, c'est presque le plus difficile. Et l'évolution elle est constante entre les générations. Bon, aujourd'hui par exemple, moi je vois les joueurs que j'avais il y a 10 ans, en fait, ils avaient souvent leur agent, et puis l'agent, il faisait toute leur carrière. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne connais plus les agents de joueurs, parce qu'ils en ont déjà plusieurs, ils changent constamment. Donc, en fait, il y a des discours différents, ils entendent des choses différentes. Donc, en fait, il y a plein de mouvements comme ça, de petits micro-mouvements qui font que le joueur réagit différemment. Mais l'idée, c'est pas d'être consensuel constamment avec eux. Non. Je pense qu'ils n'attendent pas ça. Mais il faut savoir, effectivement, pouvoir expliquer pourquoi on leur dit ça à tel moment, etc.
Vous nous rejoignez, il est 21h13 sur RMC, c'est l'after, c'est jusqu'à minuit, vous êtes tranquillement en train de préparer votre réveillon de la Saint-Sylvestre à Lanvalet ou ailleurs. On est avec Olivier Dalloglio. Olivier, on a un auditeur qui a fait le 32-16 qui nous rejoint pour vous poser une question sur, évidemment, l'une des attractions de Brest cette année, c'est Gauthier Larsonneur. Bonsoir Julien.
Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir coach.
Comment ça va Julien ?
Bonsoir Julien.
Ça va très bien et vous ?
Les fêtes ont été belles ?
Bon, coach, tout d'abord...
Ça s'appelle un vent. Ça s'appelle un vent total. Je te demandais si les fêtes ont été belles, je te le redemande pas deux fois.
Ah oui, les fêtes ont été très bien. Très bien. Même si en tant que supporter du Celtic Glasgow, nous avons vécu une grosse
victoire hier. La première victoire des Rangers depuis très longtemps dans The Old Firm.
Depuis 10 ans au Celtic Park.
Il a fallu qu'on rappelle à Jonathan, sinon il nous en parlait pas spontanément.
Ça m'intéresse.
Oui, on va éviter d'en parler.
Quand il était amnésique.
Julien, ta question pour Olivier Dalloglio.
Alors, d'abord, coach, tout d'abord, en tant que co-gérant de la une des pages Facebook du Stade Brestois, où je salue mes amis au passage, je vais tout d'abord vous féliciter quand même pour le travail fait à Brest depuis le début de la saison. On voit un jeu extrêmement séduisant et qui plaît à tout le monde et qui vraiment nous fait plaisir, même si parfois les résultats peuvent être un petit peu décevants, mais on ne s'arrête pas à ça parce que le jeu est plaisant et c'est ce qui nous importe. Maintenant, nous avons quand même plusieurs questions, notamment concernant l'avenir de Gauthier Larsonneur, l'enfant du pays, du Conquet, qui se plaît énormément au pays. Est-ce qu'il sera toujours brestois l'année prochaine? Est-ce que c'est vraiment son envie, son souhait par rapport à ce que vous pouvez entendre? Et ensuite, malgré le recrutement de Cardona, qui fait un travail de très très beau niveau et qui est vraiment de très grande qualité à Brest, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour l'épauler du côté de Gaëtan Charbonnier, qui est un petit peu plus en difficulté, même s'il accomplit toujours un très beau travail et que sa présence reste impérative?
Deux buts.
Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour les aider à avancer un petit peu de ce côté offensif qui pêche un peu plus peut-être cette année?
Mais sur le côté offensif, effectivement, donc on a des garçons comme Cardona, Mendy, Charbonnier, ouais, il y a Samuel Dancier, effectivement. Si on doit recruter, ce que je disais tout à l'heure, on se penchera plutôt sur un profil d'attaquant de profondeur, parce qu'on a besoin de prendre un peu plus la profondeur. Si c'est le profil que l'on pourrait cibler. Voilà. Après, ça dépend des opportunités et le marché. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Après, sur Gauthier Larsonneur qui a fait déjà une très belle saison la saison dernière, je pense qu'il y a un artisan de la montée.
Oh oui, clairement.
Et là, et sur le début de saison, il a été très bon. Après, il sera là, bien sûr, 2020 pour les six prochains mois. Après, le reste, dans le football aujourd'hui, il y a tellement de vitesse. On va dire. Et puis, il y a un accélérateur de vitesse, c'est la Ligue 1. Donc, on sait très bien qu'on est c'est en vitrine. Les joueurs sont en vitrine. Ça peut partir très vite. Je sais que son envie est de rester à Brest dans un premier temps. Après, je pense qu'il est toujours sélectionné et sélectionnable avec les espoirs. Il y a les Jeux Olympiques qui se profilent aussi au mois de juin. Donc, ça aussi, c'est des garçons qui vont être encore exposés. Et s'ils venaient à jouer et être bons, après, c'est vrai que, il peut avoir des demandes. Après,
justement, Olivier Dalloglio, tout à l'heure, Gauthier Larsonneur était l'invité du RMC Football Show. Il a dit qu'il voulait, qu'il rêvait de jouer les JO. Forcément, ça veut dire un début de saison un peu tronqué, des vacances en moins. Les JO, si je me trompe pas, se terminent cette année une semaine avant la reprise du championnat. Donc, en termes de vacances, ça coupe un petit peu. Quelle est la position du coach?
La position du coach, elle est toujours du côté du collectif. Donc, mais en même temps, est-ce qu'on peut refuser à un joueur d'aller faire les JO? Voilà, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on peut refuser à un joueur d'être sélectionné dans une compétition avec les espoirs? Non, je pense pas. Voilà. Maintenant, on sait les conséquences, mais aussi, je pense que ça peut faire grandir un joueur d'aller se frotter au niveau international et de le récupérer derrière. Alors, c'est sûr qu'entre guillemets, on perd un peu de temps parce qu'il faudra un laps de temps de repos aussi pour de récupération. Mais aujourd'hui, le football, c'est comme ça. Et je me vois mal interdire à Gauthier d'aller faire les JO.
Julien est toujours avec nous au 32-16. Julien, sa question était en deux parties, coach. Il posait une question sur Gauthier Larsonneur et puis de l'autre côté du terrain sur Gaëtan Charbonnier. C'est un attaquant légèrement en difficulté. Il avait pourtant marqué 27 buts en Ligue 2 la saison dernière. Et là, en Ligue 1, un seul cette saison. C'est un joueur qui semble inhibé. C'est pas la première fois qu'il semble inhibé dans l'élite, Gaëtan Charbonnier. Comment vous gérez cela? Tout à l'heure, on va parler de Robert Moreno qui fait venir dans son staff un préparateur mental. Est-ce que c'est des comment on appelle ça, des leviers que vous voudriez actionner avec ce joueur?
Il y a des leviers sur la préparation mentale, en fait. C'est très intéressant, c'est quelque chose qui va se démocratiser dans le football, même si il y a déjà des choses qui se font. Mais après, il faut qu'il y ait une volonté du joueur de vouloir explorer quelque chose qui est un petit peu inconnu pour lui. C'est toujours un petit peu délicat. Moi, je suis plutôt pour, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de muscler notre cerveau, quelque part, d'être plus résistant en tant que joueur de football, et qu'il y a aussi il y a des moyens, alors divers moyens qui s'adaptent.
Il me semble que vous avez utilisé l'hypnose déjà à Dijon. Pardon ? Vous avez utilisé l'hypnose à Dijon, non ?
Ah, j'ai utilisé pour certains l'hypnose, ouais. Mais alors après, c'est toujours pareil. J'aurais aimé qu'il y ait plus de candidats quelque part, de garçons qui soient plus curieux. Voilà, j'aimerais que les garçons soient plus curieux. Il y a vraiment de très bonnes choses aujourd'hui. Alors on est toujours à dire, ouais, mais il y a des charlatans. Oui, ça, il existe de tout. Mais il y a des gens très sérieux qui travaillent très bien et qui peuvent donner des réponses.
Mais coach, par rapport à la question initiale sur Gaëtan Charbonnier, c'est quand même un joueur après, d'une grande qualité.
Gaëtan, il a 30 ans. C'est à lui après à voir. Nous, on peut proposer des choses. C'est à lui à voir c'est une question qui doit se poser. C'est à lui de répondre à cette question.
Parce qu'on a vu Jean-Marc Furlan aussi l'année dernière au moment où il annonçait son départ de Brest et il nous expliquait que avec Gaëtan Charbonnier, c'était un mode de fonctionnement qui était peut-être un petit peu différent avec les autres joueurs. Qu'il était peut-être un petit peu obligé de, allez, pardonnez-moi l'expression, mais de lui coller au cul un petit peu plus que les autres, de trouver les leviers pour le motiver. Et que, c'était que comme ça que ça pouvait fonctionner. On sait que c'est un joueur qui a une qualité technique qui est superlative par rapport à bon nombre de joueurs qui viennent de Ligue 2. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit regret sur sa première partie de saison et un travail que vous envisagez de faire, dans votre relationnel ou sur le spécifique avec lui, parce que ça peut vraiment être un atout pour vous ?
Ah oui, c'est un atout. De toute façon, c'est un joueur qui a régulièrement joué depuis le début de saison avec nous, qui est dans un rôle un petit peu différent. Et qui est en dette de but, mais qui est un joueur important, hein, mais qui s'est mis dans un rôle un petit peu différent, qui est plutôt dans un garçon qui focalise un petit peu l'attention des défenseurs. Je pense qu'il y en a d'autres attaquants autour qui peuvent en profiter. Il a effectivement une bonne technique, un jeu long, et qui est intéressant. Donc moi, je m'inquiète pas vraiment. Après, je pense que c'est un garçon qui est motivé. Il y a pas la motivation, il n'y a pas besoin de la travailler. C'est plutôt de retrouver un peu cette confiance dans le but, quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai eu le même souci l'année dernière avec Julio Tavares, qui a eu un gros passage à vide et qui aujourd'hui, s'est repris.
Alors, Olivier Dalloglio, on est toujours avec Julien, qui est supporter de Brest, qui est au 32-16. Julien, je voulais juste te poser une petite question. Tu nous disais que tu étais à la tête d'une des pages Facebook qui parlait du Stade Brestois. Peut-être l'occasion de faire un peu de pub.
Bah oui, c'est la page Facebook, le Stade Brestois, plus qu'une équipe, une passion. Je salue Mathieu, Florian, tout le monde, hein, tous ceux qui font vivre la page, d'ailleurs qui soutiennent absolument Gaëtan Charbonnier dans ces moments un petit peu plus compliqués, l'ensemble de l'équipe et du staff pour les résultats produits, que ce soit l'année dernière ou même cette année, continuez comme ça et honnêtement, coach, continuez comme ça et vous aurez toujours la ferveur de Leblay. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est des joueurs qui mouillent le maillot, même si les résultats peuvent parfois être plus compliqués. Tant que le maillot est mouillé, les gens vous suivront. C'est ça qu'on veut. On sait d'où on vient, on est un des plus petits budgets de Ligue 1. On ne s'attend pas à jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. On veut juste, au moins, si on doit sortir, au moins sortir la tête haute et que... Comme on a vu comme le match contre Paris, on nous a dit on a vu les supporters parisiens nous féliciter en disant qu'on n'avait pas garé le bus, qu'on avait joué, qu'on avait tenté notre chance et qu'ils étaient contents de voir ça. Et nous, c'est ce qu'on veut entendre.
Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous au 32-16. Une dernière question pour Olivier Dalloglio. On a parlé de cette force à domicile. Brest, c'est 4 victoires à domicile, 5 nuls, une seule défaite contre Paris alors que vous leur aviez fièrement tenu tête. Il y a un truc qui se passe, non, Francis Leblay? Moi, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années en arrière, d'y retourner cette saison. Il y a une atmosphère particulière à Leblay, à Brest. Comment vous vous sentez globalement depuis 6 mois dans cet environnement?
On le sent. Effectivement, il y a une énergie qui descend des tribunes qui est très positive. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qui viennent d'être dits là-dessus. C'est que il y a un public qui est connaisseur, qui veut effectivement que leurs joueurs mouillent le maillot, qui tentent leur chance. Ils aiment le jeu, on le sent. Ça applaudit sur pas mal d'actions. Et il y a une grosse ferveur. Donc, c'est un stade qui est ancien, mais il y a une âme. On sent qu'il y a une âme. Et je pense que, autant mon équipe le ressent, autant l'adversaire le sent aussi. Et ça nous donne un petit avantage de jouer là-bas, parce qu'on sent cette énergie. Et on a envie, ce que je dis aux joueurs, le public va vous donner de l'énergie, mais il faut que vous soyez les premiers à donner l'énergie au public, et eux, ils vous la renvoient encore plus fort. Donc, mais je pense que jusqu'à présent, ça s'est bien passé. C'est très agréable à jouer. Et quand le stade est plein comme ça, il y a une vraie atmosphère.
Et un énorme second degré, un goût certain pour l'absurde de la part des supporters brestois, quasi britanniques. C'est vraiment sympathique d'aller à Leblay.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah.
Est-ce que vous avez eu le temps de vous remettre à la peinture du coup depuis que vous êtes arrivé à Brest? C'est la question que tout le monde se pose.
Non.
Non?
Non, j'ai pas eu le temps.
Va falloir s'y mettre, Olivier, parce que je vous rappelle que je dois venir faire un reportage là. On avait parlé de février.
Vous avez dit qu'il y a des paysages foutueux à peindre et tout. Vous avez rien foutu là. C'est quoi ce travail?
Non, mais là, c'est pas sérieux de ma part. J'ai quelques idées. Je vais m'y mettre après. Je vais attendre quand même, parce qu'on a une grosse semaine.
Attendez le mois de janvier, parce que le mois de janvier, il peut faire mal. Hein. Ouais. Attendez le mois de janvier pour le maintien, c'est mieux.
Là, vous avez pu profiter.
Un gros début
Profiter de la trêve, parce que entraîneur, manager, peintre, père, mère, éducateur pour les joueurs, comme il nous l'a laissé un petit peu entendre au début de cette interview, ça fait beaucoup de missions pour un seul homme. Olivier Dalloglio.
Entraîneur multicasquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de parler de football avec vous. Au plaisir, on vous souhaite le meilleur avec Brest pour la seconde partie de saison.
On se reparle à la fin de saison.
Et toujours du plaisir, on l'espère, pour les supporters de Leblay. À très bientôt, Olivier.
Bonsoir, coach. Un petit mot quand même sur ce stade brestois pour nos auditeurs de moins de 30 ans qui nous écoutent. C'est que c'est un club où il y a eu
François, il fait Père Castor tous les soirs, quoi.
Julio César.
J'ai une anecdote.
Roger Louis Brown. Non, mais c'est pas une anecdote. Tout le monde devrait le savoir. Qui était champion du monde et buteur à la finale de la Coupe du Monde 86. David Ginola.
Papa Higuain.
Roberto Cabañas. Papa Higuain, il est né. Non, mais c'est à Rouen, je crois. Non, c'est pas à Brest, c'est à Rouen. Mais Roberto Cabañas, le Paraguayen, pour qu'ils s'en souviennent, il y a eu de très grands joueurs qui sont passés par Brest. Bon, Franck Ribéry, mais c'était à un autre niveau.
David Ginola.
Mais Julio César, David Ginola, que j'ai cité, Roger Louis Brown, donc buteur en finale de la Coupe du Monde avec un président spécial, parce qu'on a beaucoup retenu Bernard Tapie, mais président François Hyvinec.
C'est vrai que quand on pense aux historiques de Ligue 1, souvent on se contente de regarder ceux qui sont là depuis le plus longtemps, mais Brest,
c'est passé beaucoup de choses à Brest dans les années 80.
Effectivement. On revient dans un instant, on va parler d'un autre entraîneur, Robert Moreno. C'est le pari risqué de l'AS Monaco. Vous nous appelez pour réagir au 32-16. On écoutera ses premières déclarations. On sera avec Loïc Tanzi. On revient dans un instant pour l'After. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
21h30 de retour dans l'After. Évidemment, on va continuer à décrypter l'actualité du football tout à l'heure. Fabrice Abriel sera avec nous pour nous parler de son ancien coéquipier Arteta, qui vient d'être nommé à la tête d'Arsenal.
On parle du titre de 2010 surtout.
Et on parlera du titre de 2010 si tu veux, Jonathan, puisque dans cette émission, on réhabilite les sachants. Damien Perrinel avait raison.
M'a trompé, oui. C'est pas loin, c'est Brest.
Le papa de Gonzalo Higuain a bel et bien joué à Brest. Voilà qui est
merci.
Dit. Voilà.
Et pourtant, j'ai plus de 30 ans, pourtant.
Effectivement. On est avec Loïc Tanzi. Notre spécialiste Monaco, notre amoureux à minima de l'AS Monaco, qui était aujourd'hui du côté de la Turbie. Bonsoir, Loïc.
Bonsoir à tous.
Salut Loïc.
Alors Loïc, on a envie, avant d'écouter les premières déclarations de Robert Moreno, le nouvel entraîneur, on le rappelle, de l'AS Monaco, après le remerciement de Leonardo Jardim, il a été présenté aujourd'hui à la presse, il a dirigé sa première séance, d'avoir ta sensation autant sur l'entraîneur que sur l'homme.
On a vu un homme très tranquille qui a montré qu'il avait envie et qu'il attendait ce poste de numéro 1 depuis un petit moment. Ça, il a été 9 ans adjoint notamment de Luis Enrique à la AS Rome, au FC Barcelone, au Celta Vigo, ensuite avec la sélection espagnole. Il est resté quelques matchs sélectionneur de l'Espagne, mais il avait besoin de ce poste de numéro 1 dans un club. Il l'a dit, il l'a répété aujourd'hui en conférence de presse. Et dès son premier entraînement, on a vu le style d'entraîneur qu'il était. c'est-à-dire qu'il se met un petit peu en retrait, il laisse ses nouveaux adjoints, il a deux adjoints qui sont arrivés avec lui à l'AS Monaco, diriger l'entraînement, et lui, il regarde, il analyse et il fera des choix. C'est comme ça qu'il décrit son travail d'entraîneur.
Il fera des choix, tu as parlé de ses adjoints, il y aura, on l'a dit, on en a parlé avec Olivier Dalloglio, un préparateur mental. On imagine Exactement. Qu'avec un groupe de plus de 70 joueurs pro, c'est nécessaire, parce que quand on a 70 joueurs pro, chaque week-end, eh ben, il y en a 59 qui sont mécontents.
Oui, préparateur mental, c'est important. Et c'est important, il faut écouter Oleg Petrov, pour comprendre pourquoi il y a un préparateur mental qui est arrivé. Oleg Petrov, il a expliqué que dans sa recherche d'entraîneur, il avait pris toutes les spécificités de l'AS Monaco en compte. C'est-à-dire que c'est un club qui dépasse la simple principauté. Il faut savoir que la principauté de l'AS Monaco, c'est 30 000 personnes l'hiver. Il y a vraiment pas beaucoup de monde en principauté. Le stade, il fait 20 000 places. Donc, il faudrait que toute la population vienne au stade. Et ça,
c'est pas le cas.
Oleg Petrov, il a dit, il faut que... Oui, c'est pas le cas. Et ça, Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco, il a dit aujourd'hui, il fallait un entraîneur qui comprenne tout ça et qui vienne avec un staff qui puisse aider les joueurs à dépasser un petit peu ce stade des supporters dans le stade, la pression des supporters qu'il n'y a pas à l'AS Monaco. C'est pour ça aussi qu'il y a un préparateur mental qui arrive à l'AS Monaco. C'est pour faire comprendre que vous êtes dans un grand club et c'est pas parce qu'il y a une pression un petit peu différente du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique de Marseille que vous ne devez pas vous comporter de la même façon.
Loïc Tanzi, un dernier mot sur cette conférence de presse à proprement parler. Robert Moreno a commencé sa conférence de presse en français. C'est un détail.
Oui, il a parlé de
pour
respect.
Vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Pour les journalistes, en tout cas. Pour les journalistes sur place, en tout cas, ça voulait dire beaucoup, puisqu'il a dit qu'il leur devait le respect. Il faut savoir qu'il passe après un entraîneur, Leonardo Jardim, qui avait de très bonnes relations avec la presse.
Et qui parlait très bien français, surtout.
De l'AS Monaco. Qui parlait pas très bien français, hein, Jonathan, je te l'accorde si tu veux, mais en tout cas il avait d'excellentes relations avec les journalistes qui suivaient l'AS Monaco. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Robert Moreno, dès le début, il a dit je vous dois le respect, je vous respecte, vous les journalistes, je vais parler français, et il s'adressait aussi aux supporters de l'AS Monaco qui regardaient cette conférence de presse.
Et en creux, Oleg Petrov, qui est là depuis 6 mois et qui parle pas un mot de français, du coup ne nous respecte pas.
Bon retard.
De fait,
qui comprend le français pour le coup, mais il le comprend.
C'est un dessin
Loïc, toi, t'es quel...
Il parle 5 langues quand même, Oleg Petrov.
Ouais, c'est après. Pas mal.
Loïc, oui, j'en sais.
Toi qui es quelqu'un de la région et qui a eu la chance d'assister physiquement à la conférence de presse, nous, on va pas te mentir, on le connaît pas, Moreno. Toi, t'en as ta première impression, si tu devais, tu vois, nous dire ce que t'en penses comme ça, brut de fût.
Quelqu'un qui est sûr de lui. Qui sait ce qu'il veut faire, c'est-à-dire un jeu de possession. Il y a pas de surprise dans ce que veut faire Robert Moreno. Quand on lui a parlé de 4-4-2, par exemple, en conférence de presse, sa réponse a été oui, je vais peut-être jouer en 4-4-2, mais que je joue en 4-4-2, en 4-5-1, en 4-3-3, l'important pour moi, ça va être le déplacement des joueurs. La première chose qu'il a fait en travaillant à l'entraînement aujourd'hui, c'est faire comprendre aux joueurs comment se déplacer dans les espaces. Il a dit pour moi, c'est la première chose que je dois faire comprendre à mes joueurs pour le match de samedi face à Reims en Coupe de France. Donc on va voir un AS Monaco qui va jouer au ballon, qui va avoir la possession du ballon. Il a dit tous les vainqueurs du championnat ces dernières années, donc il a pris tout le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco qui avait gagné le titre il y a 3 ans. Il a dit toutes ces équipes avaient la possession du ballon. Donc si on veut être champion de France, il faut avoir la possession du ballon.
Merci beaucoup.
C'est sa stratégie. Après, ouais. tu peux la contester, mais c'est ce qui.
C'est l'argument qui est peut-être empiriquement un petit peu bancal. Mais
merci beaucoup en tout cas, Loïc.
Merci Loïc.
On te libère. Bonne soirée. Et à bientôt sur l'antenne d'RMC, évidemment. Alors nous, on va continuer à parler de Robert Moreno. Alors évidemment.
On nous vend toujours la même chose.
Tout le monde s'est posé la question quand il est arrivé. C'est un coach sans expérience. Il a coaché l'Espagne. Il a été adjoint. Alors évidemment, la question lui a été posée en conférence de presse. Réponse de Robert Moreno.
Cela va changer peu de choses. J'ai été 9 ans adjoint. La seule différence, c'est que l'entraîneur exposé était un autre que moi. Je vais continuer à préparer mon équipe normalement. Ça change peu de choses finalement. Je suis à l'aise dans ce rôle. Je vais communiquer au mieux pour que l'équipe puisse réussir.
Voilà donc pour Robert Moreno sur son inexpérience. Oleg Petrov a également pris la parole parce qu'il savait que le coach serait attendu sur ce sujet.
Les risques font partie de la vie et du football. Mais on n'a pas pris un énorme risque en prenant Robert Moreno. Il a vraiment toutes les qualités pour le poste. L'histoire de Monaco est remplie de jeunes entraîneurs qui sont devenus de grands entraîneurs ici.
in the end, very successful coach.
Eh bien, il fait référence à des gens, à Wenger. Wenger,
il avait d'expérience avant, il avait déjà entraîné avant, il avait entraîné Strasbourg.
Il avait entraîné Nancy. Strasbourg et au Japon. Non, c'est au Japon, c'est après.
Après. Non, mais Puel, après, il y avait qui Tigana.
Puel et Deschamps.
Tigana, Thierry Henry. Oups.
Tigana.
Désolé, en tout cas, Jérôme nous a appelé au 32-16 pour nous parler de l'AS Monaco. Il est supporter de l'AS Monaco. Justement, Jérôme, bonsoir. Comment vas-tu?
Et salut After, ça va et vous?
Bah ça va pas mal.
Salut Jérôme. Salut Jérôme.
Ça va pas mal. Le fait de prendre un novice dans le métier, ça t'inquiète?
Ça inquiète oui et non. Enfin, on peut pas juger avant d'avoir vu en action le Moreno quoi. Robert Moreno. On peut pas trop le juger avant d'avoir
ouais, c'est
vu.
Ça.
Mais c'est vrai que. En voyant, enfin, ils savaient les dirigeants qu'ils allaient virer Jardim à un moment ou un autre. Ils le savaient. Le bruit courait depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et quand on voit qu'il y a des super entraîneurs comme Carlo Ancelotti qui sont allés signer à Everton, tout ça, on se dit Monaco, s'ils veulent vraiment jouer, être à la hauteur de leur ambition, jouer le haut de tableau, jouer, voire rivaliser avec le PSG à l'avenir. Voilà, c'est des coachs comme ça qui font rêver, on va dire. Là, Moreno, la seule expérience qu'il a, c'est quelques piges, quelques matchs à la tête de l'Espagne où bon, il y a eu de la réussite, mais bon, c'était une belle équipe.
4 victoires de nul contre des équipes forcément de très très haut calibre. La question que je te pose, Jérôme, c'est que le discours de Petrov se veut ambitieux. Il estime que la 7e place, c'est pas le niveau de l'AS Monaco, que l'AS Monaco doit être plus haut. Est-ce que pour toi, l'entraîneur choisi est un entraîneur à la hauteur des ambitions annoncées par Olev Petrov?
Comme ça, à première vue, non. Qu'il me fasse mentir, hein, c'est tout ce que je souhaite à l'ASM, hein, mais à première vue, c'est pas l'entraîneur qui fait rêver. C'est un inconnu quoi pour le monde du foot, on va dire. À part voilà, il était adjoint, mais bon ensuite, voilà, il faut bien qu'il se lance un jour. Espérons que ça colle bien avec la SN.
Merci beaucoup, Jérôme.
Vue, ouais, c'est compliqué.
Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de Monaco. On te souhaite de belles heures à supporter ton équipe à Louis II, en espérant que le stade soit un peu plus rempli et l'ambiance un peu plus fun. Le jeu également. À bientôt, Jérôme. Messieurs, autour de cette table, cette inexpérience de Moreno, elle vous inquiète?
C'est pas, déjà, on peut revenir sur ce qui s'est dit pendant la conférence de presse. Alors, on sait pas, on le connaît pas, personne, on va pas se mentir, hein. On sait pas qui c'est, on sait pas ce que ça vaut, on sait pas quel niveau ça a en tant qu'entraîneur. Moi, j'ai tendance à considérer que pour un club de l'ampleur de Monaco, qui est un club qui est amené à représenter la France sur la scène européenne, il faut un entraîneur expérimenté qui ait déjà de l'expérience, justement, sur la scène européenne. Ceci étant dit, on va l'appréhender sans a priori, parce qu'on ne le connaît pas. S'il faut, ça va être une très bonne surprise. Mais en tout cas, la conférence de presse, et je reviens à ce que Damien disait sur l'AS Monaco quand on faisait nos vœux pour les clubs de Ligue 1, c'est qu'effectivement, ce club a besoin d'une part d'une politique sportive et d'autre part d'arrêter l'enfumage médiatique. Quand on entend Petrov nous dire que il a pris, en gros, grosso merdo, hein, je vais schématiser un petit peu, mais qu'il a pris Moreno parce qu'il prend un préparateur mental, parce que le préparateur mental va faire en sorte que les joueurs se rendent compte que le stade n'est pas vide, premièrement, et que Moreno nous dit que lui, il veut jouer la possession parce que pour être champion de France, faut jouer la possession, non, parce que sur les derniers champions de France, il y a Paris, il y a juste Paris plus Monaco ont eu la possession. J'ai l'impression d'être dans un vaudeville de Noël, en fait.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a... bien sûr, on va me faire le procès que c'est le Niçois qui parle, hein, mais je le dis en toute objectivité. Mais là,
arrête, t'as dit que c'est le Monaco que tu détestais pendant les coupures de pub. Tu nous l'as dit, François, faux. Arrête.
Mais sur le rocher, ils sont pas sur le rocher, ils sont sur la lune. Moi, quand j'entends, rivaliser avec le PSG, non, ils ont pas encore compris.
Non, il a
c'est
pas
un
dit ça.
Accident.
Il a pas
rivaliser avec le PSG, textuellement, c'est un accident industriel ce qui s'est passé.
Dans le contexte.
Sans enlever aucun mérite à ce club qui, de surcroît, est demi-finaliste de la Ligue des Champions, ce qui est pas un hasard. Mais quand tu en parlais même avec les gens du club à l'époque, ils réalisaient que être champion face à ce Paris Saint-Germain, c'était exceptionnel. Alors moi, je leur souhaite de redevenir champion, pourquoi pas. D'ailleurs, ça nous ferait un vrai championnat de France, pour le coup, avec de l'émulation. Mais ils en sont très, très, très loin, comme a dit Jonathan, et je souscris totalement. Il leur faut une politique sportive. Tu parles de 73 contrats pré-compris, il faut dégraisser le rocher. Premièrement, il faut avoir une politique qui se tienne. Il faut avoir quelqu'un, effectivement, qui soit expérimenté et pas un entraîneur qui a le nez qui coule du nez. Même
ça,
si
on sait pas.
Il faut donner sa chance au produit. Ah oui. On va voir. Alors, on va voir quand même avec une double confrontation contre les Parisiens. Alors, on sera pas fixé, hein.
Ah, ça parce va être tôt pour juger, ouais.
Ça va être tôt et très dur pour juger. Et une dernière chose, préparateur mental. Mais le préparateur mental, on avait reçu l'ancien préparateur de l'OGC Nice ici sur le plateau, qui était salarié du club et qui nous l'avait dit forcément beaucoup mieux que nous. On l'impose pas aux joueurs. Si tu l'imposes, le préparateur mental aux joueurs, mais tu vas droit dans le mur. Ouais. Et Olivier Dalloglio nous l'a dit aussi, il faut que ce soit de l'initiative
pour
des
moi,
joueurs.
Les préparateurs mentaux, c'est le Desbrouf.
Manteau.
En tout cas,
c'est vraiment.
François Manardeau, merci pour dégraisser le rocher. Cette petite périphrase de Claude Allègre, c'est ça?
Je vais
dégraisser
non,
le mammouth.
Du tout. Dégraisser le mammouth, oui. Ah, périphrase, d'accord. Ouais.
Bon, ouais. Merci. Ça faisait longtemps
que j'avais pas ce que je raconte. Tu t'es pris un vent, mais tu veux mettre un vent à tes consultants.
Pas du tout. Non. C'est très intéressant, mais j'aimais l'expression. Pour conclure.
Je pense qu'on dit vraiment les préparateurs mentaux.
On va vérifier, je pense, on va demander à notre producteur,
parier ton EPAP parce que moi il me dit que j'ai dit que je détestais l'ASM, ce qui est faux, mais il est vraiment venu avec un EPAP.
Écoute, chacun a ses obligations.
C'est l'obligation, je voudrais la connaître, tiens, l'obligation.
Tu savais.
Damien Périnel, t'es en train de passer tes diplômes d'entraîneur. Il y a ce projet monégasque avec Robert Moreno qui a été adjoint. Tu t'imaginerais à terme, accepter un projet de cette ampleur avec comme unique expérience celle d'être adjoint et de ne pas être numéro un?
Le problème quand on est adjoint, c'est qu'au bout d'un moment, on est au service des autres. Et ce qui veut dire qu'on ne prend jamais la décision, on est toujours là pour faire en fonction de l'entraîneur principal. Là, la plus grosse différence qu'il va avoir, c'est de faire des choix et de les assumer derrière. Et puis même, à la limite, de devoir déléguer un petit peu à ses adjoints une certaine part du travail. La différence aussi, c'est Didier Deschamps l'a dit lors de l'interview, c'est qu'il était sélectionneur. Mais sélectionneur et entraîneur d'une équipe à plein temps, c'est deux métiers complètement différents. Quand on a les joueurs que 3-4 jours par mois ou une semaine éventuellement pour travailler, c'est pas le même rythme de travail. Voilà, après sur Robert Moreno, pourquoi on laisserait pas la chance au produit?
Oui, normalement, oui.
Il n'a pas le palmarès, il n'a pas. Mais au bout d'un moment, un Nagelsmann, quand il prend une équipe à Hoffenheim, on se rend compte que le mec, c'est un petit génie et que derrière,
est-ce
il
que
va
tu
monter.
Penses que Hoffenheim affiche les mêmes conditions de travail que au niveau de la masse des joueurs, je dirais la masse salariale, non. Mais au niveau de l'effectif, non, que c'était on a parlé de Bourbier avant-hier.
Bien sûr, c'était certainement différent, mais après, on se met à la place de Moreno. Bien sûr qu'on l'accepte tout de suite, le projet. Moi, je l'accepte. De toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir d'autre en soi?
Messieurs, on revient dans un instant pour continuer à débriefer cette conférence de presse et cette présentation de Robert Moreno. Est-ce un pari risqué pour l'AS Monaco? N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 pour discuter avec nous. On va également, justement, poser cette question à Robert Moreno, savoir pourquoi il a choisi Monaco. On parlera également Mercato. On revient dans un instant dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Timothée Mémon.
21h46, de retour dans l'After. On continue à parler de AS Monaco. Tout à l'heure, on aura l'avis tranché de Jonathan McCarty, c'est sur l'AS Saint-Etienne. On se posera la question de qui se cache derrière le coach Mikel Arteta, et Fabrice Abriel viendra nous donner un éclairage, lui qui a joué aux côtés de l'Espagnol. Il y aura le Mercato Show, on parlera de la VAR. On en a fait presque le tour en France. Et bien voilà qu'en Angleterre, ça fait très largement polémique. Ça devient même catastrophique avec un Boxing Day qui a été très touché par de nombreuses décisions un petit peu tatillonnes. Alors on va continuer à dérouler cette conférence de presse de Robert Moreno. Robert Moreno, il a également répondu à la presse présente ce soir à la Turbie sur le pourquoi il avait accepté ce projet monégasque. Et écoutez bien, il dit qu'il a eu beaucoup d'autres offres.
J'ai eu beaucoup de propositions et le projet que m'a présenté Monaco était clairement le meilleur choix. C'est une grande équipe avec des joueurs de talent. J'ai senti que j'étais leur première option. Je viens pour progresser en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme. Je me projette sur l'avenir au-delà de la situation du moment.
Messieurs, beaucoup de propositions pour Moreno, c'est pour faire mousser le projet monégasque. Comment ça se passe? C'est de la com pure et dure là?
Ouais, ça j'en sais rien parce que je crois qu'il y a pas si longtemps que ça justement, il chialait un peu parce qu'il comprenait pas pourquoi qu'il était pas resté l'adjoint d'Enrique à la sélection espagnole. Donc un peu paradoxal son discours. Après, s'il avait beaucoup de propositions, j'en sais rien, ça fait un petit moment. Je pense qu'il est aussi sans, sans job. Alors, à voir hein, maintenant. Voilà, tant mieux pour lui s'il a cette opportunité maintenant. Un bon petit soldat, c'est bien.
Un bon petit soldat, justement. On va écouter sa réponse sur le mercato qui tente à étayer ce que tu dis, Damien.
Ça serait un manque de respect envers les joueurs de dire publiquement quel secteur je veux renforcer. On doit rester à l'affût des opportunités. Si on a l'opportunité de renforcer l'équipe, nous le ferons. Je suis satisfait des joueurs que j'ai.
Je suis content avec les joueurs que j'ai.
Alors messieurs, là on a quand même un discours très lisse.
Content avec Glick et Jamerson.
Ouais, on a quand même un discours qui est très lisse là, de la part de Moreno. On sait que Oleg Petrov veut renforcer le pouvoir russe au sein de ce club monégasque détenu par Ribolovlev. Est-ce que le choix qui a été fait a aussi été le choix de quelqu'un, allez, qui soit peut-être pas aux ordres, mais qui file droit? Sans charisme outre mesure.
Moi, je le pense par rapport à cette direction monégasque, ouais. Et par rapport au profil de Petrov, je pense que il souhaite avoir une mainmise totale, et sans doute que pour X raisons et en s'appuyant sur des résultats qui sont pas brillants sans être infamants, Jardim pose problème.
C'est vrai qu'on a beaucoup.
Je pense que oui, il a trouvé, tu disais, un bon petit soldat.
Ouais, petit soldat. Après, ouais. Encore une fois, quand tu signes à Monaco, de toute façon, tu sais dans quoi tu t'embarques normalement. Jardim, quand il signe à Monaco, il sait que c'est pour faire du trading, pour mettre en valeur des joueurs, ainsi de suite. Donc, il a signé tout en connaissance de cause. Il savait très bien qu'à chaque mercato, il allait avoir toutes ses pépites qui allaient partir. Et à partir du moment où c'est franc jeu dès le départ et que tout est clair entre la direction et l'entraîneur, si direction sportive il y a à Monaco, je ne sais pas.
Ouais, mais
en tout cas, il faut jouer franc
jeu
dès le départ.
Moi, je pense que leur but premier, c'est quand même de prendre un entraîneur qui va bien faire tourner l'équipe et valoriser les joueurs, parce que je suis quasiment sûr que sur le moyen, voire le très court terme, Vassiliev veut vendre le club, tout simplement.
Ribolovlev
veut vendre le club. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ses relations sont rompues avec la principauté. Il y a eu des démêlés judiciaires, des promesses non tenues concernant le fait d'obtenir une certaine nationalité. Je pense que le club ne lui sert plus à grand-chose. On va pas se mentir. Hein. Il avait pris le club, c'était pas par amour du football, c'est parce qu'il avait des intérêts à Monaco. Et là, dans la mesure où ses possibilités d'évolution dans la principauté, ses possibilités de résolution de problèmes qu'il a pu avoir, c'est des impasses. Je pense que son intérêt principal, oui, c'est d'arriver à prendre quelqu'un qui va valoriser le club suffisamment pour valoriser les joueurs de manière à faire en sorte que le club soit vendu au meilleur montant possible et se désengager totalement de l'AS Monaco.
L'impasse, ouais, c'est ce qui vraiment transpire du peu déjà, mais quand même de ce qu'on arrive à
interpréter
de la situation.
Il y a un cas qui est extrêmement intéressant, c'est que même on n'en parle pas beaucoup parce que ça nous semble un petit peu anodin, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu mystérieux ce qui se passe à Monaco, mais je pense que c'est le club où le pouvoir politique local est le plus impliqué dans la santé sportive et des aléas conjoncturels de ce qu'est le club, quoi. C'est assez impressionnant de voir à quel point le prince peut faire la pluie et le beau temps.
Cédric, toutefois, si la relation est fraîche, plus que fraîche, même,
c'est pas
entre
fraîche,
Ribolovlev
elle est rompue, elle est rompue.
Et le palais princier,
il faut appeler un chat un chat. La relation est rompue.
Oui, elle est rompue. C'est que, alors, je dirais, dans la pluie et le beau temps, ils ont toujours fait confiance, que ce soit à la grande époque de Campora, aux hommes qui étaient mis en place. Après, par rapport aux ambitions de Ribolovlev, lorsqu'il arrive avec un projet qui n'est pas un projet de trading, hein, souvenez-vous les recrutements de Falcao, de James Rodriguez, mais qui très très vite, à cause de son divorce, faut le rappeler, fait basculer le projet monégasque vers un projet de trading où ils ont touché la limite.
James et Falcao, ça s'inscrivait dans un projet de trading et d'un partenariat avec Jorge Mendes. Alors ça n'a pas marché avec Falcao parce qu'il y a eu ses blessures, etc. Mais regarde le prix auquel James Rodriguez a été vendu.
Ils le vendent.
Ouais.
40, il achète à Porto et 80,
il double le prix.
Mais il y avait quand même, je trouvais que c'était pas seulement sur du training. Et il faut se souvenir des derniers mots de Vassiliev.
Ils le vendent après une saison.
Avant Petrov. Ouais, avec une offre de 80 millions, tu réfléchis plus.
Ouais.
Avant que Petrov n'arrive, où il se dit oui, sur la stratégie de training, on s'est trompé. Parce que il y avait un temps pour faire du trading au bon moment, mais il fallait respecter certains cycles. On a vendu très bien, mais
trop
très vite
et trop
et trop
Cédric est supporter de l'AS Monaco, il est avec nous. Pour toi, bonsoir Cédric d'abord, bienvenue dans l'After.
Bonsoir messieurs.
Salut Cédric.
Salut Cédric.
Alors, bonsoir, comment, Cédric. Comment tu as perçu cette décision, toi, supporter de Monaco?
Bah, de toute façon, c'est la décision d'un seul homme. Je crois qu'il a envie de redorer un petit peu son blason, c'est Oleg Petrov. Je pense que, comme vous en parliez, je pense qu'il a pris un petit soldat. Après, c'est vrai que le discours de l'entraîneur est lisse. Et j'entendais Loïc tout à l'heure qui disait qu'il avait l'intention de faire jouer les joueurs dans les espaces. Bon, je pense qu'ils savent déjà le faire. Et il est oui, vraiment très vite parce que si au jour d'aujourd'hui, il n'a pas l'honnêteté de dire qu'il faut qu'on change au moins la défense, bah oui, son discours, il est lisse. Après, c'est vrai qu'on est dans le flou total. De toute façon, il y a beaucoup de choses que je suis d'accord avec vous par rapport aux histoires de Riboliev, parce que à partir du moment où ça s'est pas résolu, qu'il a pas eu la nationalité, son divorce, il en a perdu la moitié de sa fortune, et ben on a vu que la politique, elle a complètement changé. D'ailleurs, il y a plus de vision à long terme, même à moyen terme. Il n'y en a plus du tout, du tout. Et c'est vrai que bon, on est encore sur l'année, il y a 2 ans, où on était en demi-finale de la Ligue des Champions, on est resté là-dessus. Mais depuis, c'est que des déceptions, que des déceptions, en fin de compte. Et il n'y a pas de stratégie. Là, ça fait 2 ans qu'on traîne la plus mauvaise défense du championnat. Au niveau de l'attaque, on n'a rien à dire, on est la 2e meilleure attaque. Mais la défense, oui, si on a encore Glick et Jemerson, on peut mettre Moreno, on peut mettre un Laurent Blanc, on peut mettre n'importe qui. C'est pas difficile de jouer contre Monaco avec cet axe central-là au jour d'aujourd'hui.
De toute manière, je pense que ces questions sont un petit peu superflues dans la mesure où, sous 2 ans, le club, à mon avis, sera mis en vente et trouvera un acheteur. Parce que même si le club n'est pas forcément extrêmement attractif d'un point de vue sportif, tu as quand même beaucoup d'hommes d'affaires qui ont tout intérêt à racheter le club pour faire des affaires à Monaco.
Après, encore une fois, moi, je remets pas en question la qualité du coach parce qu'on le connaît pas.
Non,
voilà.
C'est
vraiment.
Non, même... C'est ni en mal ni en bien.
Voilà.
On sait rien.
Mais en soi, non. Ce que je veux dire, c'est que quand tu sondes un Marcelino qui, lui, en fait, dès qu'il est en désaccord avec sa direction, il n'hésite pas à démissionner. Tu me confirmes
à Valence, on lui a trouvé des poux qu'il n'avait pas.
Des poux, donc voilà. Donc en gros, il a dû partir, mais. Quand même quelqu'un d'un fort caractère, il me semble, ce Marcelino.
Oui. Ouais.
Un Gallardo qui se plaît.
Gallardo, c'est mort. Il reste
voilà,
à River.
Il est à River.
Et s'il part de River, ce sera pas pour Monaco. Hein.
On parlait même d'un petit Pochettino éventuellement, mais là, quand on s'est rendu compte combien ça coûtait, on dit on a freiné des cas de fer. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est Moreno qui empoche la mise. Hein.
Ouais. Après Moreno, ça peut être une bonne surprise aussi.
Bien sûr.
Il a quand même été entraîneur adjoint à la Roma, championnat italien, Barcelone et Celta Vigo. Donc c'est pas non plus n'importe quoi.
Oui, après Silvino, il avait été un adjoint à l'Inter, il avait été adjoint de Tite, il avait pris les sélections, je sais plus quelle sélection
oui,
de jeunes brésiliens.
Entre la rigueur espagnole et la rigueur brésilienne, au niveau du jeu, je trouve que c'est pas la même chose. Entre
la rigueur italienne à l'Inter, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas une garantie. Ouais. Après, en revanche, là où t'as totalement raison, c'est qu'on n'en sait rien. Il y a aucun de nous qui, franchement, s'il y a un mec qui arrive là et qui me dit, alors ouais, il est comme ci, comme ça, c'est un menteur.
Ah non, c'est pas possible. Personne ne sait. La priorité, il nous
même
faut.
Même Fred Hermel qui l'a vu prendre l'Espagne sur quelques matchs, il est à Cannes. Mais c'est vrai. Il est même Fred qui l'a vu sur quelques matchs. Je pense que Fred aura l'honnêteté intellectuelle de dire, je l'ai vu que sur quelques matchs, j'en sais rien.
Comme tout le monde.
Eh ouais.
Quasiment comme tout le monde. Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous.
On te souhaite
une bonne seconde partie de saison. Effectivement, une très belle année 2020 à venir.
L'AS Monaco, en espérant
que ce soit le frère de Maripane s'en aille de Monaco et que le vrai Maripane arrive enfin.
Maripane, effectivement, le défenseur qui était venu pour prêter main forte à cette défense en déliquescence.
C'est son frère, hein, je t'assure. Là.
Dernière question, messieurs, on en a parlé. Silvinho, Jobard, Printemps, Moreno, les adjoints ont la cote. avec des réussites diverses.
Alors attends. Sur Jobard, faut quand même dire une chose, c'est que il y a des joueurs de l'Olympique de Marseille qui avant d'affronter Dijon nous ont quand même dit il est adjoint de Garcia, mais moi j'ai jamais vu personnellement au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus.
il est quand même arrivé avec marqué adjoint sur son CV
et voler des gens aux parties de poker.
Est-ce qu'aujourd'hui quand on est un club de Ligue 1, c'est difficile de prendre un entraîneur expérimenté et du coup on est coincé, obligé de tenter des coups.
Non, c'est pas difficile. Ça dépend de ce que tu affiches comme projet sportif, à quel point il peut être emballant et l'effectif que tu récupères qui peut te permettre éventuellement de gagner des titres.
Moi, je ne pense pas que ce soit ça, François. Je pense que le problème, c'est la mentalité des présidents qui veulent quand même garder la main mise sur ce qui se passe dans leur club et y compris à des échelons qui ne devraient pas les concerner, à savoir le sportif. Alors évidemment, le sportif, la politique sportive générale globale doit les importer. Mais ce qui se passe sur le terrain, dans les compositions d'équipe, sur le mercato, sur qui tu recrutes, ça devrait être un directeur sportif plus son binôme qui devrait être l'entraîneur qui devrait choisir là. Et je pense que les présidents sont un petit peu frileux de prendre des entraîneurs qui ont cette influence. Et on a vu qu'à chaque fois que des grands noms sont venus dans nos championnats. Marcelo Bielsa, même Ranieri à Nantes. Ce genre de grand entraîneur qui arrive avec des manières de faire, un professionnalisme qui vient de l'étranger, ça finit par toujours aller au clash avec les présidents.
Le mot de la fin, Damien.
Ouais. Après, il y a quand même eu des adjoints qui ont fait bonne figure en tant que numéro 1. Il y a eu un Gasset qui d'autre encore, je sais plus. Bon, bref, mais
Zidane, hein.
Bah exactement, mais oui, mais le truc, c'est que quand t'es entraîneur, au bout d'un moment, Genesio qui était allé à Lyon derrière, ça me revient. Quand t'es entraîneur, au bout d'un moment, c'est soit tu prends la voie, tu deviens adjoint et tu fais ça adjoint toute ta vie, ou alors tu peux être adjoint pour progresser et voir comment ça se passe, mais aussi, faut que t'aies l'âme d'un entraîneur numéro un. Adjoint, tu peux faire 3-4 ans, allez, maximum. Mais derrière, faut que tu passes en poste numéro un.
Merci beaucoup, messieurs. On revient dans un instant pour parler notamment de la vie tranchée de Jonathan McCarty. On parlera aussi de Mikel Arteta tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.